Ne me vire pas, il faut oublier, ne pas résilier comme ça mon contrat, même si c'est très mal d'être resté hier au chevet de grand-père en phase terminale, de n'être pas venu, je recommencerai plus, je ne serai plus absent, je serai à 100%. Ne me vire pas. Ne me vire pas, ne me vire pas, ne me vire pas. Moi je travaillerai s'il le faut la nuit, y compris le samedi, même si tu ne payes pas. Je suis prêt à faire des milliards d'efforts pour te couvrir d'or, toi ma seule lumière. Je ferai un hôtel juste pour t'encenser. Je te reverserai tout mon PEL. Ne me vire pas, ne me vire pas, ne me vire pas, ne me vire pas. Ne me vire pas, je renoncerai au congé payé et au 13e mois. Je dénoncerai ces salauds qui osent abuser des pauses pour aller fumer. Je te donnerai le nom de ces traîtres qui n'ont pour seul maître que la CGT. Ne me vire pas, ne me vire pas, ne me vire pas, ne me vire pas. Tu pourras souvent être un chef odieux, m'humilier devant les autres vieux vicieux. Je pourrai tranquille supporter tes crasses. Sois donc dégueulasse, j'ai l'esprit servile. N'aie aucun égard avec la fumée de ton gros cigare que tu me craches au nez. Ne me vire pas, ne me vire pas, ne me vire pas, ne me vire pas. Ne me vire pas, je ne vais plus râler, je vais me la fermer. J'irai même chez toi, être ta soubrette, laver ta vaisselle, ramasser tes miettes, sortir tes poubelles. Laisse-moi devenir ton parfait larbin et laisse-moi dormir dans la niche du chien. Ne me vire pas, ne me vire pas, ne me vire pas, ne me vire pas.
C'était donc les goguettes en trio, ne me vire pas. Vous écoutez Radio Campus Lille, bonjour, nous sommes le premier mercredi du mois d'octobre 2014, il est midi et c'est l'heure de se pencher sur les bons calculs économiques, les BCE. Dans les médias déchaînés, c'est la guerre, c'est la guerre civile. Alors dans Libération, Sécu, le déficit se réduit moins, grève à Lufthansa, fin de la grève à Air France, une amende fiscale record pour la société Apple. Dans le Figaro, la dette crève officiellement le plafond des 2000 milliards d'euros. Dette, une prise de conscience trop tardive du problème. Ah oui, au fait, tiens, quelle dette ? Bah, ils ne le disent pas, ça. Gaz et électricité vont augmenter cet hiver. Politique familiale, le gouvernement prévoit un nouveau tour de vis. L'UNEDIC, encore des prévisions, prévoit 150 000 chômeurs de plus d'ici fin 2015. Le pacte de responsabilité n'est pas suffisant pour enrayer la hausse du chômage. Plus intéressant, l'Allemagne en déclin, des économistes très inquiets. Alors bonjour Benoît, aujourd'hui une émission par téléphone, alors
oui.
qu'est-ce que ça veut dire tout cela,
bonjour,
la France
n'a...
Bonjour Benoît et bonjour chers auditeurs et auditrices.
Ouais, bonjour à tous.
La France n'a jamais été aussi riche, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on est en train de perdre, une guerre économique?
Le problème, je pense, il est tout à fait différent. On va partir, si tu le veux bien, d'un tout petit problème dont on a beaucoup parlé ces 10 derniers jours. C'est la grève Air France des pilotes. Bon, ces pilotes qu'on qualifie de défense d'intérêt catégoriel, de privilégiés, etc., etc. Question qu'on peut d'ailleurs poser en ce moment, il y a des pharmaciens en grève, les autres professions réglementées, avocats, notaires, etc. Tous des privilégiés. Tous. Ah bon. Moi, personnellement, je pense que ces grèves sont légitimes. Et ça pose fondamentalement cette question de la grève des pilotes d'Air France, un double problème qui est un problème social. C'est quoi notre modèle social et comment il évolue maintenant depuis une vingtaine d'années. Et c'est un problème économique parce que derrière la grève en question se profile une nouvelle forme de transport aérien qui s'est beaucoup développée mais qui est en train de se généraliser pour tout le monde. Lufthansa qui est en grève en Allemagne, quelle horreur, sur ce même type de problème. C'est celui du discount aérien. Ah, discount. Modèle de consommation lié à l'appauvrissement des populations. Bon, on va revenir sur ces deux choses parce qu'effectivement, ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est que ben, ce problème de la grève des pilotes, il est tout à fait, mais alors tout à fait typique. Et on peut revoir avec cette grève des pilotes, que je trouve légitime, je le répète, toute la question socio-économique de notre modèle mondial. Alors, légitime, d'abord par rapport aux autres salariés. Un petit rappel, c'est quoi le capital? Le capital dont on rabâche, par définition, sous une forme édulcorée, l'économie de marché, qui défendrait un modèle libéral, libéralisation de tout d'ailleurs.
De tout, pas du droit de grève.
On va revenir sur ce qu'est le libéralisme. Je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Un capital, c'est bien une somme d'argent, oui ou non? Bah, la réponse, c'est non. Le capital, fondamentalement, c'est un rapport social entre un capitaliste, un patron, et le salarié qui l'emploie. Le problème, c'est que on l'oublie souvent, mais sans salarié, l'entreprise n'est rien, mais absolument rien. C'est le salarié qui crée toute la valeur et le capitaliste, rien du tout. Je pense qu'Air France, et les pilotes sont exemplaires de ce point de vue-là, vient démontrer cette chose-là. Sans les pilotes, qu'est-ce que c'est qu'Air France? Sans les autres salariés d'Air France, d'ailleurs, non plus. Donc, que ce soit le PNC, le personnel navigant commercial, les hôtesses, stewards, etc., ou le personnel au sol, Air France ne fonctionne pas. Mais là, on l'a vu avec quelques centaines de personnes, les pilotes, la compagnie aérienne n'est rien. Rien. Ils peuvent avoir des avions, ils peuvent avoir du capital, somme d'argent, etc., des investissements. La société n'existe pas dans un système capitaliste si les salariés ne sont pas là pour se faire exploiter. Et donc le problème de fond, bien évidemment, dans cette société, c'est comment le capitaliste arrive à faire croire à ses salariés que ce sont des privilégiés et qu'ils doivent perdre leurs privilèges alors que c'est eux qui ont tous les privilèges. Et le premier privilège, on le voyait bien dans la chanson qu'on écoutait tout à l'heure, c'est de donner du travail. Le capitalisme nous donne du travail et pour cette raison-là, il faudrait s'aplatir, mais d'une façon de plus en plus importante. On devrait mettre le tapis rouge pour le patronat, on devrait lui accorder tout et n'importe quoi. On le voit très très bien avec Gattaz en ce moment, qui promet de créer 1 million d'emplois, mais si on lui donne toute satisfaction sur tout le reste, c'est-à-dire plus de droits sociaux, plus de revendications, des salaires plus bas, etc., etc. Donc en fait, c'est un grand classique du capitalisme. Le capital est un rapport social, il définit les conditions dans lesquelles l'exploitation se fait entre le capital d'un côté de ça, le capitaliste, et le salarié de l'autre. Le capitaliste en veut toujours plus et il veut toujours en donner moins aux salariés. Donc ça, c'est la première chose. Et là, on voit bien que cette grève d'Air France, elle est vraiment exemplaire. Elle est exemplaire parce que les salariés, progressivement, ont fait reculer la direction sur des points extrêmement importants, notamment l'extension de ce discount via la société portugaise qu'il voulait créer à l'ensemble de l'Europe. Reste la question en suspens sur le discount en France même, chez Air France, et sur le statut des pilotes. Moi, personnellement, je reviendrai après sur cette histoire du discount. Le discount, c'est un mode de consommation, d'approvissement complet, à la fois du modèle social, de la population, avec des conséquences dramatiques pour tout le monde. Je vais revenir, mais je vais d'abord traiter ce fameux problème du capital. Parce que le capital, dans un système comme le nôtre, il y a toujours des personnes derrière. Il y a des personnes côté capitaliste et il y a des personnes côté salarié. C'est eux qui créent ce rapport social. Côté capitaliste, on oublie souvent que derrière les grands capitaux qui dirigent le monde, derrière les structures financières avec lesquelles on a des managers, mais il n'y a pas seulement que les managers, il y a des grandes familles. Derrière les sociétés du CAC 40, etc., on trouve de grandes familles également, on trouve de grandes fortunes. Donc on voit très très bien qu'on retrouve toujours dans le fonctionnement du système des personnes de chair et d'os, qui sont d'ailleurs totalement interchangeables, que ce soit X, Y ou Z. Le principal pour ces personnes-là, c'est d'exploiter le travail à fond et d'obtenir le maximum de profit en un minimum de temps. La libéralisation dont on parlait, toi, tu riais tout à l'heure, André, mais bon, cette fameuse libéralisation, elle touche tout, 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 tout. Et y compris le droit de grève, il faut le libéraliser à la limite, le droit de grève. Qu'est-ce que c'est qu'un droit de grève réglementé? Franchement, si on le libéralisait, on pourrait faire grève n'importe comment, ça serait génial, non? Tu trouves pas? On parle jamais des relations syndicales. On voit qu'à la Lufthansa et en Allemagne, ça commence à bouger sérieusement. Tu parlais des économistes qui mettaient en doute viabilité à long terme, même à moyen terme, du système allemand. C'est oui. Clair que le système allemand fonctionne fondamentalement avec quoi? Il fonctionne avec deux choses. D'abord, les autres économies. Et deuxième chose, surtout avec une population qui a supporté le poids de la transformation du système voulu par Schröder et ensuite par Merkel, où toute une série d'avantages sociaux ont été perdus. Sauf que une fois que ces avantages sociaux sont perdus, une fois que la population pose problème parce qu'il y a un déclin démographique en Allemagne, on va se retrouver avec des indicateurs sur les fondamentaux qui vont être relativement mauvais. Une population qui vieillit, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est une population qui va coûter cher en soins, etc.
Elle transfère ses dépenses vers les soins, disons. Coûter cher en soins, avant tout, c'est nous qui payons.
C'est clair, qui est-ce qui paye les soins? On parlait tout à l'heure de la grève des pharmaciens aujourd'hui. Les pharmaciens, ça aussi, ce sont des gens privilégiés. A priori, ce sont des catégories qui sont plus favorisées que les salariés de la base. Moi, ma question de fond, c'est pas de critiquer ces gens. Ils défendent leur pouvoir d'achat et ils défendent leurs intérêts. Leurs intérêts sont légitimes par rapport à l'ensemble de ce qu'ils défendent. De même que les salariés ont des intérêts légitimes. Le problème, c'est qu'il n'y a plus personne qui les défend vraiment. J'étais l'autre jour dans des réunions syndicales avec les gens de la grande distribution. Ce qui m'interrogeait vraiment sur ces réunions, c'est que qu'on soit chez Leclerc, qu'on soit chez Carrefour, qu'on soit chez Casino, etc., Auchan, on est toujours avec le même discours. C'est-à-dire que les salariés disent, un, on n'en peut plus, deux, on continue de licencier en France, trois, les grands groupes de la distribution s'internationalisent de plus en plus, font leur argent à l'extérieur et leur chiffre d'affaires à l'extérieur. Et nous, en France, on est sacrifiés. Alors que c'est la France qui a permis à ces groupes de s'internationaliser et de faire de plus en plus de bénéfices.
Ah, c'est les bénéfices qui ont été faits en France qui ont permis d'investir en Russie pour Auchan et en Chine. Et pour les autres, c'est exactement la même chose.
Pour Carrefour, c'est la même chose. Pour Casino, bien évidemment, c'est l'argent qui a été gagné en France qui a permis à Naori de s'internationaliser, notamment au Brésil. Le Brésil fait pratiquement maintenant la moitié du chiffre d'affaires du groupe Casino. Donc on est dans un système où effectivement l'internationalisation a été suscitée par les grandes firmes et a été suscitée par les capitalistes eux-mêmes. Et ils se plaignent maintenant de cette internationalisation pour nous imposer des conditions qu'ils imposaient à l'extérieur chez nous. Donc ils voudraient vraiment qu'on soit nourri avec un bol de riz, je veux dire.
Patrons et actionnaires, ils veulent être payés comme des patrons et actionnaires américains, et ils veulent payer leurs employés, leurs ouvriers, comme des ouvriers comme des vietnamiens. Ouais, vietnamiens, c'est encore moins cher que les Chinois. Enfin, moi je dis ça, je dis rien.
Non, parce que les Chinois sont en train de bouger, il suffit de regarder.
Oui, exactement.
Chinois, de toute façon, à Hong Kong, pour voir que dans ces pays-là maintenant, ça commence à bouger aussi, et que, bien évidemment, la question au cœur, c'est le partage entre les salaires et les profits, c'est-à-dire l'augmentation du pouvoir d'achat, des salaires, ainsi de suite.
Bon, et puis des salaires, si on regarde un peu, moi je vois surtout ça dans les chantiers de construction, quand je fais mes courses dans les magasins à côté, bah, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que sur ces chantiers sont occupés des Hongrois, des Polonais, des Ukrainiens, des Roumains, enfin les Ukrainiens non, ils vont arriver les Ukrainiens, hein. Ouais, des Roumains, ouais, hein, maintenant dans les travaux publics, on voit plus que ça, ils sont payés au salaire de là-bas. Ça n'a pas fait baisser les prix de la construction. Hein.
Bien sûr que non.
Voilà, c'est... Après, on parle beaucoup des sans-papiers, mais il faudra qu'on nous explique un jour ce que font les sans-papiers.
Exactement.
Hein, parce si que c'est pas travailler au noir pour moins cher.
Je pense qu'ils ne pourraient pas vivre sans faire un certain nombre de travaux.
Bien sûr.
De sorte.
Bien sûr.
C'est clair, l'argent ne tombe pas du ciel pour eux comme pour les autres d'ailleurs. Hein. Mmh. Et donc, quand on regarde effectivement la construction, moi je voyais des choses assez incroyables dans le sud. Je voyais des camions. Des camionnettes et du matériel de construction qui venait de Pologne avec des ouvriers polonais.
Bien sûr, enfin, dans le transport
et
aussi.
Travailler
hein.
Le samedi, travailler le dimanche, etc. Donc, on est dans un système où, effectivement, l'ouverture totale des frontières, l'absence de règles, justement, le libéralisme économique, c'est ça. C'est la liberté d'exploiter les autres, de toutes les façons et de toutes les manières. Quand on parle de cette fameuse grande distribution, là, moi, le discours qui m'interrogeait vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce discours, c'est en France, les gens ne sont plus compétitifs et il faut vraiment que ben, tout le monde s'y remette, etc. On parle actuellement, dans la grande distribution, d'appliquer des méthodes qui étaient des méthodes qu'on avait utilisées fortement dans l'industrie il y a ça 10-15 ans. Fameux lean management, je sais pas si tu connais ça.
Oui, le nom existe toujours et on nous en parle en bien dans les entreprises.
Ah ben bien évidemment.
Bah tiens, jeudi il y a une réunion à la centrale d'Auchan concernant le service informatique qu'ils sont en train de liquider.
Bah oui.
Donc une réunion d'une journée, ils vont leur présenter la nouvelle organisation, enfin la nouvelle désorganisation parce que c'est de pire en pire.
Bah, le problème de fond, c'est que le lean management, c'est ça que je voyais dans les discours à la fois chez Casino, chez Auchan, chez Carrefour. Le discours envers les salariés est le même, mais vraiment le même. Les organisations sont devenues pléthoriques. Donc, ce qui était un modèle qui était assez fordiste, hein, avec une division du travail poussée, etc., une hiérarchie assez pesante, qu'est-ce qu'on est en train de transformer dans la grande distribution, comme on l'a fait dans l'industrie à un moment donné, c'est de passer du fordisme au toyotisme. Et le toyotisme, c'est ça, le lean management. Le lean management, c'est, par définition, le lean, c'est léger, c'est dégraissé. Ne me licencie pas tout à l'heure dans la chanson.
Oui, voilà. Mais
justement, le plan que fait Auchan, le plan qu'a fait Casino, le plan qu'a fait Carrefour, c'est ça. C'est-à-dire, on supprime des structures organisationnelles qui pèsent sur les coûts, soi-disant.
Oui, il y a une hiérarchie pléthorique quand même dans les entreprises. Hein.
Exactement.
Il y a des chefs donc, partout ça... pour vous empêcher de travailler, d'ailleurs.
C'est ça. Et donc, les gens en question, on va les virer et on va faire ce qu'est fondamentalement le lean, c'est-à-dire d'organiser le travail par petits paquets de salariés qui s'auto-exploitent. Moi, j'ai vécu ça dans l'industrie textile. C'était des fameux groupes de travail où, au lieu de faire un travail à la chaîne, par exemple, pour faire une chemise, on avait divisé ça en 50 opérations différentes. Et la chemise suivait un chemin tout tracé dans l'atelier. Avec, on commençait par les cols, on commençait par les manches. Puis après, on avait les autres parties de la chemise, etc. Et chaque ouvrier ne faisait qu'une opération répétitive. Et la chaîne avançait au fur et à mesure avec la chemise qui avançait. Les salariés étaient cloués sur leur poste de travail et la chemise suivait le truc. Dans la grande distribution, donc dans le textile, on a changé tout ça hein, et on a fait des groupes de travail où on avait, mettons, une quinzaine de personnes qui faisaient la totalité de la chemise en petits groupes de travail, petits groupes, les cercles de qualité. Et qualité, c'était zéro défaut, on gère soi-même les absentéismes, etc., etc. Et chacun se surveillait ses pieds, parce que quand il y en avait un qui n'était pas présent dans le cercle de qualité, dans le petit groupe, bien évidemment, c'était sur les autres que se reportait le travail. Et c'est eux qui, bien entendu, organisaient leur propre production comme ils voulaient, à partir du moment où les objectifs de la production avaient été fixés par la direction, c'est-à-dire par le capitaliste. Tu dois faire autant de chemises par jour dans le cercle de qualité, dans le petit groupe de travail. L'essentiel, c'est que le nombre de chemises soit fait avec une qualité irréprochable. Et donc, les gens se débrouillaient pour faire ça. Il y avait des gens qui travaillaient avant, il y avait des gens qui travaillaient après. Et donc, les horaires de travail étaient éclatés, les modes de rémunération aussi. Tout suit dans ce système-là. C'est-à-dire que, quand on fait du lean, la rémunération individuelle qu'on pouvait encore mesurer, il y a toujours eu des gens qui, quand ils avaient un chronomètre derrière eux, faisaient plus que d'habitude, ils se rendaient pas compte après que c'était la norme qui allait être imposée à tout le monde et que les salaires allaient baisser. Mais bon, staccadobisme, ça a toujours existé dans les entreprises. Mais là, c'était plus du tout ça, c'est-à-dire que c'était les gens qui organisaient eux-mêmes leur propre schéma d'exploitation dans le groupe. Et ça fonctionnait merveilleusement. Pendant un certain temps, on a pu maintenir la confection avec des salaires, excuse-moi l'avance, relativement élevés par rapport aux Chinois ou par rapport aux Vietnamiens de l'époque. Et donc, on a pu maintenir une certaine production d'habillement en France, grâce à ça. Bien évidemment, après, avec l'ouverture de la Chine totale au commerce mondial, c'était plus suffisant. Et donc, les groupes d'habillement français, européens, etc., ont délocalisé d'abord vers le Maroc, la Tunisie, puis vers la grande importation. Hein, bon. Mais on est en train de faire ça dans la distribution. Dans la distribution, il y a quand même deux différences fondamentales. La première différence, c'est qu'on ne peut pas la délocaliser. Il faudra continuer à distribuer tout ce qui est la bouffe, les vêtements, etc. en France. Sans quoi, bah, les Français, ils pourront pas manger, ils pourront pas se vêtir, etc., etc. Donc, dans la grande distribution, on n'est pas du tout dans le même schéma d'internationalisation. L'internationalisation, c'est l'internationalisation du capital, c'est-à-dire la poursuite d'une colonisation par les firmes multinationales dans les pays du Sud. C'est pas du tout le même schéma que l'internationalisation de la production industrielle. Donc là, on est coincé au sol, on est attaché au sol, on peut pas faire autrement. La distribution, elle se fait sur place. On va pas distribuer avec des salariés chinois par avion des produits en France, c'est pas possible. Bon.
Donc, on va surtout en faire un maximum par le client.
Voilà. Donc, première chose importante, c'est ce que tu disais. Donc, jusque-là, qu'est-ce qu'on a fait? La grande distribution, c'était quelque chose de formidable. Parce que le client faisait tout un ensemble d'opérations qui étaient réalisées auparavant par le petit commerçant. La pratique de l'hyper, c'est ça, hein, c'est faire ses courses par le client et il paye à la fin. Donc, maintenant, on a commencé à transformer avec les nouvelles technologies un petit peu tout ça. Donc, c'est, par exemple, les caissières, il y en a trop, on fait des caisses automatiques. C'est le client qui fait lui-même sa caisse. Donc, des emplois en moins. On va scanner, on va faire des tas de choses comme ça, soi-disant pour suivre les produits, la qualité, etc. J'y reviendrai après avec ma deuxième histoire de discount et de mode de consommation. Et quand on est dans ce système-là, bien évidemment, on supprime des emplois partout. Le Lean, dans ce contexte, intervient pour éliminer justement les structures qui pèsent et qui pèsent sur les valeurs que peut obtenir le capitalisme dans l'exploitation de la totalité de la force de travail. Pourquoi? Parce que, bien entendu, ce sont des gens qui sont souvent en responsabilité, donc c'est de l'encadrement moyen, etc. Et cet encadrement moyen coûte cher. Donc on l'élimine. On n'a pas besoin vraiment de petits chefs si, dans les groupes de travail autonomes, dans les cercles de qualité, ils s'exploitent eux-mêmes. Alors, dans une grande distribution, dans une grande surface, c'est quoi le cercle de qualité? Ben, c'est le rayon. Le rayon, ça permet à des gens d'organiser leur travail soi-disant comme bon leur semble, à condition que la mise en rayon, les ventes, etc., se fassent dans les conditions optimales par rapport à la logistique qui est derrière, mais qui, elle, est centralisée. Centralisée pourquoi? Parce qu'il faut continuer à exploiter, bien entendu, toutes les sources d'approvisionnement, d'achat, etc. Que ce soit l'agriculteur, que ce soit la grande firme multinationale qui vend des produits comme L'Oréal, etc., les négociations vont être toujours aussi dures de ce côté-là. Et ce qui va être organisé différemment, c'est le passage entre le moment où ça va être dans les entrepôts avec la logistique, les conditions d'achat, etc., et puis la vente elle-même. Donc on aura de moins en moins de personnes, et de plus en plus de personnes en relation directe avec le rayon, et il va devoir s'organiser avec moins de personnes qu'avant. Donc il faut s'attendre dans la grande distribution à ça. Ce qui fait que le Lean engendre des tas de choses particulièrement défavorables pour les salariés. Quand on regarde le Lean, on a immédiatement derrière tout un ensemble de maladies psychosomatiques professionnelles.
Voilà.
On voit, mais c'est vrai partout, c'est-à-dire qu'on interroge des gens de casino, d'Auchan, Carrefour, etc. Tous les salariés le disent, la pression devient infernale. les gestes répétitifs, etc., ben, c'est plus possible. Voilà, et les gens ont tellement peur de perdre leur emploi qu'ils ne se déclarent même plus malades.
On a et ils tombent donc encore malades encore plus fortement.
Oui, et donc on voit très très bien, par exemple, les CHSCT sont de plus en plus en avant par rapport aux comités d'entreprise, parce que les CHSCT, c'est là où se voit justement tout l'impact de cette transformation radicale de la vie au travail. Et cette vie au travail, c'est une vie qui est stressée constamment, avec des horaires décalés, avec des tas de choses comme ça, qui font que ben, les gens sont obligés d'intégrer la vie de l'entreprise comme étant leur propre vie. On vit pour l'entreprise et on vit de plus en plus pour l'entreprise, on se décarcasse pour l'entreprise parce que l'entreprise vous aime. Or, l'entreprise ne vous aime pas du tout. C'est elle qui engendre quoi ? Qui engendre toutes ces maladies psychosomatiques, qui paye des bas salaires, etc., etc. Et on est en train de faire croire aux gens qu'en changeant leur travail, ils vont de plus en plus être impliqués eux-mêmes dans la vie d'entreprise. Mais non, ils vont être de plus en plus exploités par cette même entreprise.
On baissera pas le pantalon devant les petits chefs. On baissera pas le pantalon à sacré nom de nom. On baissera pas le pantalon devant les petits chefs. On baissera pas le pantalon devant une bande de cons.
Dans n'importe quel bureau, sur le chantier, à l'usine, faut toujours des blaireaux pour faire chier le populo. Les patrons, c'est des malins, ils ont trouvé la combine pour pas salir les mains. Ils ont des collabos, il y a toujours des branleurs prêts à lécher les bottes. Ils deviennent petits chefs, ils ont de l'ambition, c'est toujours les premiers pour baisser leurs culottes, pour faire les coups en douce, c'est les rois des fauchetons.
On baissera pas le pantalon devant les petits chefs. On baissera pas le pantalon à sacré nom de nom. On baissera pas le pantalon devant les petits chefs. On baissera pas le pantalon devant une bande de cons.
Ils se mettent au garde à vous comme des vrais militaires prêts à exécuter les ordres de leur patron. Ils se disent courageux, mais ne sont pas téméraires et retournent leur veste à la première occasion. Quand il est au boulot, il se prend pour un cadre, c'est monsieur je sais tout. Il a peur de personne, le soir à la maison, changement de décor, devient un vrai toutou et rentre devant pas bonne.
On baissera pas le pantalon devant les petits chefs. On baissera pas le pantalon à sacré nom de nom. On baissera pas le pantalon devant les petits chefs. On baissera pas le pantalon devant une bande de cons. On baissera pas le pantalon devant les petits chefs. On baissera pas le pantalon à sacré nom de nom. On baissera pas le pantalon devant les petits chefs. On baissera pas le pantalon devant une bande de cons.
En vrai, les petits chefs, c'est tous des pétochards. Ils serrent tellement les fesses devant la direction que tu pourrais même pas mettre un suppositoire. Quand on est trop de tchus, on le reste pour de bon. C'est jamais de leur faute, sont jamais responsables. Eux font que leur travail, c'est la faute au patron. Pour nous, un collabo, c'est jamais fréquentable. Quand on est à côté, ça nous donne des boutons.
On baissera pas le pantalon devant les petits chefs. On baissera pas le pantalon à sacré nom de nom. On baissera pas le pantalon devant les petits chefs. On baissera pas le pantalon devant une bande de cons.
Écoutez Radio Campus, si vous l'avez reconnu, c'était les Glauchos, les petits chefs. Oui, on parlait avec Benoît Boussemard. Excuse-moi Benoît de t'avoir interrompu.
Non, non, c'est
abruptement,
pas grave. C'était tout à fait...
c'était pour rester dans le sujet.
Donc, en fait, effectivement, tout à fait dans l'épure de la discussion qu'on avait.
Le line manager.
Parce que effectivement, quand tu écoutes cette chanson, cette chanson montre effectivement qu'il y a quelques années, quelques dizaines d'années, il n'y avait pas du tout les mêmes mentalités qu'avant. On parlait de libéralisme tout à l'heure, et on assimile le libéralisme à la liberté de chacun, ce qui est une erreur fondamentale. Quand t'es dans une entreprise, t'es pas libre de faire quoi que ce soit, je veux dire.
Non.
la première chose qu'on t'apprend, c'est de faire le boulot pour lequel t'as eu un contrat de travail avec toutes les contraintes qui sont indiquées dedans. D'ailleurs, une des grèves les plus efficaces serait de se référer à son contrat de travail. Les gens ne regardent pas leur contrat de travail. Le contrat de travail, il prévoit ce que tu dois faire. Une grève qui serait vraiment une grève, mais vraiment tranquille, ça serait la grève du zèle, c'est-à-dire l'application stricte de son contrat de travail.
C'est la pire.
C'est jamais pire. Fait dans les entreprises. On fait toujours faire plus aux gens que ce qui est marqué dans le contrat de travail. Les gens, s'ils s'en apercevaient un tout petit peu, ils changeraient radicalement d'avis, notamment par exemple sur les horaires, sur les tâches qui sont effectuées, etc., etc. Et avec ce fameux système où on s'auto-exploite, on ne s'en aperçoit même plus. On est soi-disant libre d'organiser comme on veut son travail. La liberté. Oui, mais sauf que si on t'impose une certaine production, la liberté pour y arriver, c'est peut-être bien, mais il n'y a aucune liberté réelle, puisque la liberté, tu l'aliènes complètement avec l'objectif que tu dois à tout prix réaliser dans ta journée. Mettre en rayon dans toute une journée, faire venir des caissières pour, quand elles n'ont pas soi-disant de travail avec certaines périodes de la journée, pour épauler une mise en rayon alors qu'elles ne savent pas vraiment le faire, de la polyvalence qui n'est pas bien acceptée, qui n'est pas reconnue, qui n'est pas payée, etc. Tout ça, ce sont des dégradations profondes du travail et du contrat de travail. Donc on est dans un système où la dégradation des conditions de travail tient à quoi ? Tient justement à la fameuse fausse liberté qu'on dit accorder aux salariés et qui est en fait une fausse liberté totale, puisqu'on impose de plus en plus de tâches qui ne sont pas celles du contrat de travail, qui sont en dehors des clous sur la sécurité, qui engendrent des maladies socio-professionnelles. Il suffit de regarder les TMS dans la grande distribution pour s'en apercevoir. Le mal-être au travail est assez généralisé dans la grande distribution. Les gens ne sont plus du tout impliqués comme avant. On le voit très bien. Pourquoi ? Ben pour des raisons très simples. Les entreprises françaises, on regarde par exemple les comptes d'Auchan France, de Casino France, de Carrefour, Hyper, etc. en France, les emplois ont diminué partout. L'emploi diminue dans la grande distribution française. Et elle diminue parce qu'elle se retrouve ailleurs. Elle se retrouve ailleurs avec une productivité, des rendements hausses, etc. Et donc, quand on veut faire moins de gens, bien évidemment, c'est sur ces personnes-là que se reportent les quantités de travail qui étaient faites par les autres avant. Il n'y a pas de secret. On peut délocaliser certaines fonctions centrales. Tu parlais de l'informatique, on peut la délocaliser dans des pays ad hoc. Hein. On peut la délocaliser en Pologne, on peut la
c'est en cours.
Délocaliser en Inde, etc. Mais bon, ça veut dire que là, on aura peut-être des coûts inférieurs. Les qualifications ne seront pas forcément les mêmes. Ça peut poser des problèmes de maintenance, etc.
Attention, on a des coûts apparents inférieurs. Voilà. Parce que derrière ça, la qualité du travail n'est pas extraordinaire du tout. Elle est même très mauvaise. Parce qu'il faut, il faut assurer la liaison entre ces équipes qui, justement, parfois travaillent en Inde ou en Pologne. Et quand on leur demande quelque chose, ils ne comprennent pas la même chose, ce qui est tout à fait logique. Il faut connaître à fond le système, il faut connaître à fond la réalité pour faire, par exemple, des applications informatiques qui correspondent aux besoins des gens ou à la réalité, hein, aux besoins des salariés ou à la réalité. Hein.
Ça, c'est clair, c'est vraiment la réalité qui est en question, là. Parce que, bon, gérer une logistique où il y a des milliers de fournisseurs, etc., c'est pas quelque chose de simple. Si on veut gérer ça de façon efficace, c'est bien évidemment un système qui doit exister. Donc il y a un système derrière technologique, etc. Mais les gens qui sont là, c'est, comme je le disais tout à l'heure, t'as pas de salariés. Ben, comment ça fonctionne ? Ça fonctionne pas. Air France, toujours exemplaire de ce point de vue-là. On est dans un système où les salariés ne peuvent pas ou ne veulent plus se défendre. Ils ont soi-disant la liberté individuelle. Cette liberté individuelle fait que quoi ? Ils confondent la possibilité d'avoir une liberté formelle avec une liberté réelle.
On les conditionne pour comme ça dès l'école. Hein. Moi, je dis ça.
Non, mais justement, on leur a appris à croire que le libéralisme, c'était on peut faire ce qu'on veut. et on est libre. Je peux voyager, donc je suis libre. Je vais voyager avec Air France. Je vais y revenir tout à l'heure. Je vais être libre de choisir du discount. Je vais être libre de choisir tout ce que je veux. Sauf que cette liberté-là, elle devient de plus en plus illusoire. Elle est illusoire sur le mode de consommation, puisqu'on nous l'impose de plus en plus. Là aussi, je vais revenir, mais elle est illusoire sur toute la ligne. Donc, on est dans un système qui préconise et qui met en avant la liberté, alors que la liberté n'existe pas. Si on prend la défense des salariés, cette défense des salariés, elle est organisée comment maintenant ? Quand on voit que les problèmes se posent de la même façon chez Casino France, chez Auchan France, chez Carrefour France, etc., que les gens disent partout, on nous en demande de plus en plus, avec de moins en moins de moyens, on est mal payé, l'intéressement, ça devient peanuts partout, il n'y a pratiquement plus d'intéressement, la participation baisse parce que les résultats sont soi-disant en baisse, et on peut très bien revenir là-dessus, je reviendrai après sur une des explications possibles de la baisse des résultats en France. Donc, les gens ne sont plus motivés, ils perdent de plus en plus de pouvoir d'achat, ils perdent en emploi, ils perdent partout. Donc, que font les entreprises ? Elles essaient de remotiver leurs troupes en essayant de leur faire partager justement avec ces nouveaux systèmes de Lean, etc., l'optique de l'entreprise. Et donc, vous êtes dans une entreprise d'ailleurs, soyez bien content d'avoir encore un job, hein, ça revient à la première chanson. Et deux, on est dans un système où, effectivement, on ne peut pas contester quoi que ce soit parce que les syndicats n'organisent plus rien. Ils sont faibles. Et alors qu'ils devraient, par exemple, je sais pas moi, si j'étais un syndicat quelconque, hein, on peut prendre la CGT, la CFDT, il faut tout ce qu'on veut. C'est le même problème. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne discutent pas des problèmes syndicaux, ils discutent des problèmes de boîte. C'est-à-dire qu'à la limite, les syndicats actuellement disent, si je suis un syndicat Auchan, je défends les intérêts de Auchan parce que c'est les intérêts de mes salariés chez Auchan. Mais c'est une erreur fondamentale. Ils n'ont pas à faire le boulot du patron. Le boulot du patron, c'est son boulot. Il le sait d'abord, il sait le faire et il le fait surtout très bien. Il ne faut pas demander à un patron de ne pas défendre ses intérêts. La famille Mullier,
ils le font très bien.
Elle sait très bien défendre ses intérêts chez Auchan. Le syndicat chez Auchan, il ne va pas dire, moi, je veux qu'on fasse ça chez Auchan parce qu'on fait ça chez Casino. C'est une absurdité totale. Or, c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que, au prétexte que Casino fait du discount, au prétexte que Carrefour fait du discount, au prétexte que Casino fait des caisses automatiques, au prétexte que Carrefour fait des caisses automatiques, au prétexte que Casino met en place un nouveau système comme le Lean Management, comme Casino le fait, comme Carrefour le fait, on doit le faire aussi chez Auchan. Sans quoi, on perd des emplois et moi, syndicat, je défends avant tout les emplois, mais il défend rien du tout. Il défend rien du tout. Ce qu'il devrait faire le syndicat dans ces conditions-là, c'est de faire comprendre collectivement et au syndicat de Carrefour et au syndicat de Auchan et au syndicat de Casino qui sont en train de se faire avoir par justement le discours patronal qui les oppose les uns aux autres. C'est ça le fond du problème. La tactique syndicale, c'est pas une tactique qui est de défendre son entreprise par rapport aux autres, c'est une absurdité totale. Elles s'entendent tous très bien comme des larrons en foire pour imposer plein de trucs au niveau des États, au niveau des gouvernements, etc. On le voit très bien en France. Tu parlais tout à l'heure du pacte, du CICE, etc. Ils se sont tous entendus comme des larrons en foire pour imposer le CICE, obtenir des subsides extrêmement importants en termes de dizaines de millions d'euros dans la grande distribution, alors qu'ils ne sont pas menacés par la compétitivité internationale. C'est une grosse rigolade.
Voilà. Donc, on va parler, enfin, une petite chanson pour illustrer la vie en entreprise.
Oui, ça serait important.
Avant que tu finisses de changer de sujet. Donc,
après, je reviendrai sur mon petite histoire du discount.
On est d'accord. Donc, toujours les goguettes en trio, pardon.
D'accord.
À propos du langage dans l'entreprise, vous écoutez Radio Campus Lille, LBCE, les bons calculs économiques.
Autrefois en entreprise, on parlait français. C'était d'une ringardise qu'il fallut dépasser. Aujourd'hui, c'est plus pareil.
Nov langue.
Ça passe bien mieux à l'oreille. Notre charabia à entendre. Ah, Berthier.
Yes, sir.
Viens présenter notre nouveau projet.
Ok, easy.
C'est un process 100% e-business à partir de segments qui ne sont pas confusants. Du e-learning issu d'un brainstorming qu'un débriefing a rendu opérant.
On benchmarkait le marché de la chaussette pour savoir du nylon le taux de pénétration.
S'il y a un gars, tu me vois pas mes lasers, okay. Il me faut ton feedback pour manager tes couacs.
Autrefois il arrivait que l'on déconnecte, on osait en fin de journée se reposer l'intellect.
Sonnec.
Maintenant c'est bien plus fun, la vie est high-tech.
Yes, mec.
On se branche sur son smartphone, même en dehors du desk. Berthier.
Oui.
T'as le week-end entier pour nous drafter ta presse.
C'est une big machine où tout le monde est win-win, car chaque follower devient Angel's partner. Un B2B, posté en B2C, dans une logique up-down. Qu'est-ce que je viens de dire, Simone?
Parce que c'est chouette, cet esprit corporate. C'est la joie, la pinesse, partout dans l'open space.
Mais Bertie, pour que tu te magnes, c'est déjà la deadline. Forward, reporting, en deux ou trois wording. Oh manager, à nos bons actionnaires, à chaque intérimaire, et même au N-2. Au back office, à la femme de service, au DG et au DAF, bref à l'ensemble du staff.
Si le pitch fait pchit, c'est que ton deal est trop cheap. Dans ce cas, je book un broker pour checker les erreurs.
En cas de banqueroute, je crains les burn-out, car on licenciera, comme toutes les autres fois.
Oui, on licenciera, sorry, mais y'a pas le choix. Oui, on licenciera, c'est plus du charabia.
Voilà, c'était les goguettes en trio, la complainte du langage en entreprise, win-win, corporate, open space, enfin, toutes les guignolades. Bon, et les entreprises dominaient aussi les gens par le langage, parce que
exactement.
Tous les six mois, c'est les nouvelles expressions, tout ça, qui font que, enfin, je veux dire, on qualifie les organisations avec ces nouveaux mots et autres, mais plus personne ne sait s'y retrouver. Il y a ça entraîne des pertes de fric monumentales. C'est de la politique pour que personne ne puisse s'y retrouver, arrive à réfléchir, arrive à faire la synthèse, ben c'est la lutte des classes en entreprise. Quoi.
Ben voilà, ça illustre parfaitement ce qu'on disait il y a 5 minutes, à savoir que ce qui compte, en définitive, c'est d'opposer les gens entre eux,
voilà,
les
c'est entreprises entre elles,
de façon de plus en plus fictive d'ailleurs, pour faire en sorte que l'exploitation soit maximum de l'entreprise. Quand on fait, par exemple, tu prends le benchmarking, bench, c'est quoi? C'est formidable, le bench. En fait, ça veut dire qu'on compare une entreprise à une autre sur ses performances. Mais le problème, c'est pas de comparer une entreprise par rapport à une autre sur ses performances en disant, mais moi, Auchan, je suis moins bon que Casino, donc je dois augmenter l'exploitation de mes salariés, et les salariés doivent contribuer à ça. Ils doivent contribuer à ça. Mais ça devient du délire syndical, là. Le syndicat qui commence à dire ça, je veux dire, il est mort. C'est plus un syndicat, c'est plus la défense des salariés, c'est la défense de l'entreprise contre ses salariés.
Et alors, sachant qu'il y a des syndicats qui font quand même leur travail, hein, mais surtout des syndicats d'entreprise.
Ouais, mais c'est de plus en plus difficile parce que justement, le problème syndical, c'est de plus en plus, et comme on le voit dans les négos d'ailleurs, c'est des négos qui, on essaye de les faire glisser, et le gouvernement socialiste va prendre une grosse responsabilité là-dedans. Deux négociations qui étaient des négociations d'organisation syndicale à organisation patronale, vers quoi? Vers des négociations qui sont des négociations de branche et surtout vers des négociations d'entreprise. Or, la négociation d'entreprise, c'est la mort du syndicalisme tel qu'on la connaît. C'est-à-dire que quand on n'a pas des syndicats qui sont extrêmement forts, ça sera le syndicat maison qui va l'emporter et il fera passer tout ce qu'il veut. Donc, on est dans un système où on va avoir une transformation fondamentale au nom de la liberté, justement, puisque on est libre d'adhérer ou pas adhérer, tu le sais bien. Donc, le syndicat, c'est des gens qui sont des empêcheurs de tourner en rond, etc. Donc, il faut faire en sorte qu'on puisse continuer à travailler en France. Si on ne peut pas travailler en France, c'est parce que les syndicats ne sont pas raisonnables, ils veulent la cote du travail, ils veulent des salaires, enfin, voilà. Ils veulent tout. Or, tout ça, c'est pas possible de continuer comme ça en France.
Alors, j'ai une question.
Comme on veut, etc., etc., quoi.
J'ai une question pour toi. Hein, tu vas me donner, tu vas me dire un peu de quand date ce texte. Excuse-moi. Ouais. Donc, nous attirons votre attention sur les graves conséquences qu'auraient à subir nos industries au cas où la loi venait à être appliquée. Vous savez, la main-d'œuvre ici est exigeante et hors de prix. La main-d'œuvre est plus coûteuse qu'à l'étranger. Si nous maintenons le même salaire pour la journée réduite, la partie ne sera plus tenable. Oui, je ne t'ai pas donné le nombre d'heures. Nous serons dans l'obligation de fermer nos entreprises et de les transporter là où l'ouvrière est la moins dispendieuse. De quand ça date à peu près, ça?
Ah, à mon avis, ça date des années 1800, ça.
1848, voilà. Ouais. Avec 14 heures, nous tenons à peine. Ouais, 12 heures précipiteraient les faillites, le travail dans nos entreprises. Je veux dire, 1848, c'est toujours le même discours depuis...
Exactement le même discours.
La fondation de l'industrie.
Exactement. Quand tu regardes les écrits du patronat dans ces époques-là, et quand tu vois les écrits des défenseurs des salariés, il y avait des historiens à l'époque qui montraient ce que coûtait véritablement un salarié. Le prix du salarié, c'était un morceau de pain pour vivre et se reproduire.
Voilà, hein, exactement.
Quand tu vois ça, mais les patrons disaient, quand on va passer de la semaine de la journée de 15 heures à la journée de 12 heures, mais ça va être une catastrophe.
Voilà, attends,
plus travailler avec les enfants, ça va être une catastrophe, etc., etc. On nous rabâche la même chose, et ce qui est grave en ce moment, c'est que tous les acquis sociaux qu'on avait réussi à obtenir dans les pays européens, la plupart, ces acquis sont en train d'être laminés totalement sur le temps de travail, sur les conditions de travail, sur les rémunérations, sur les organisations des salariés. On est en train de contester fondamentalement certains droits de grève. Quand on regarde ça de très très près, le temps de travail va s'allonger de plus en plus. On parlait de l'Allemagne, c'est fait en Allemagne normalement, puisque si ces pauvres Allemands ne sont plus compétitifs, qu'est-ce qu'on est en train de dire?
Donc, grâce à l'Union Européenne, ils contestent fondamentalement tous les droits des salariés, des gens, des particuliers.
Exactement.
Il n'y a que les actionnaires, les financiers qui...
Tout à fait.
C'est pour eux qu'on travaille.
C'est bien évidemment pour eux,
ça,
dans un cadre qui est effectivement un cadre totalement ouvert. Parce que là aussi, on disait tout à l'heure, qui est-ce qui a fait l'ouverture capitaliste au monde? C'est bien entendu les capitalistes, ils l'ont suscité. Ce qui a fondamentalement changé, c'est qu'un certain nombre de pays, on a voulu supprimer les expériences communistes en Union soviétique, etc. Bien mal nous en a pris, je veux dire, par rapport à l'évolution actuelle, puisque quand il y avait ça, au moins, il y avait une alternative, même si elle était très mauvaise, possible. Maintenant, il n'y en a plus. Et surtout, des pays comme la Chine se sont totalement ouverts au commerce mondial. Or là, c'était une quantité de travail extrêmement importante et à très bas prix qui a fondu sur le marché mondial du travail. Et donc là, on est sur un système où l'exploitation peut être encore très forte. Bon. Donc, ces systèmes-là font que, bien évidemment, les organisations syndicales, au lieu de défendre fondamentalement les intérêts de leurs salariés, défendent de plus en plus les intérêts de l'entreprise, or ils deviennent les intérêts des capitalistes de l'entreprise et pas des salariés de l'entreprise. Et donc c'est ça qui est grave.
Sont tombés dans le piège à con.
Voilà, tout à fait. Et le deuxième aspect de ça, c'est que bien évidemment, ça s'articule tout de suite ça à quoi? Au modèle de consommation. Parce que quand on est dans un système qui dérive vers des salaires plus bas, des conditions de travail plus difficiles, etc., on a un mode de consommation qui, par rapport à ce qu'il était avant, est en train de fluctuer, mais à la baisse. Quel est le seul moyen que les salariés obtiennent ou peuvent utiliser pour ne pas voir leur pouvoir d'achat baisser? C'est de s'adresser à des produits qui sont de moins en moins chers. L'avion, c'est ça. Quand on va faire de l'aviation en discount, on peut voyager en discount avec des conditions qui sont celles du discount. Donc, on voit bien que c'est pas toujours aussi discount que ça, parce qu'à côté, quand tu dois avoir des services... si tu as autre chose qu'une petite valise que tu peux mettre, etc., si tu veux consommer quelque chose, tout de suite tu payes,
un
voyage
max,
pour revenir beaucoup plus cher qu'un voyage normal, mais bon.
Voilà, ce qui est curieux, c'est que on dirait les gens sont bien gentils, ils n'arrêtent pas de nous répéter, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ils oublient complètement que les régressions ont eu lieu, et pas seulement à cause du maréchal Pétain. Par exemple, le Front Populaire, 1936, les premiers congés payés. Mmh. Mais le 12 novembre 1938, par une série de décrets baptisé décret misère, le gouvernement Daladier supprime les acquis du Front populaire. Vous saviez pas que les acquis du Front populaire avaient été supprimés avant-guerre? Heureusement, à la libération, on a réussi à les reconquérir.
Et justement, ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est de les remettre en question.
Voilà.
Et donc, les gens n'ont pas de mémoire. Comme tu disais tout à l'heure, cet exode 1800 et les poussières montrent bien ce qu'était déjà l'exploitation dans un système purement libéral.
On change quelques mots, c'est d'actualité, on le met dans le Figaro.
Moi je peux trouver des passages chez Marx où on a le capital financier qui se plaint de la même façon, des crises périodiques, des crises sur les matières premières, des crises sur les finances, etc., etc. On est dans un système où la régulation ne peut plus exister. Et la régulation, c'était la régulation étatique, c'était les fameuses 30 glorieuses avec le keynésianisme. Mais ça, c'est fini. Il n'y a pas d'État européen actuellement. C'est mort.
Il n'y en a aucun.
Donc, par rapport à ça, on ne peut pas avoir d'instance de régulation autre que libérale. Et ces instances de régulation ne régulent rien. On le voit bien avec la Banque Centrale Européenne, on le voit bien avec les autres instances au niveau du Bureau International du Travail, etc., etc. Le travail des enfants n'a pas progressé. Au contraire.
Donc, on appelle ça des stagiaires, on appelle ça des formations, de l'apprentissage, mais maintenant le travail des enfants à 16 ans, si mes souvenirs sont exacts, est revenu. Et c'est l'employeur qui décide de tout pour donner un bout de papier au gosse et qui de toute façon ne lui permettra pas de trouver un travail ensuite. La formation professionnelle, c'est pour faire travailler les enfants.
Voilà, donc on est dans un système de régression des acquis sociaux qui est extrêmement important parce que bien évidemment... les entreprises disent, mais nous, on ne peut pas faire autrement si on veut rester compétitif au niveau international. Or, je le disais, pour la grande distribution, c'est du pipeau complet, ça.
Voilà.
C'est vrai pour certaines industries qui sont directement en prise avec la concurrence mondiale. Quoique, si on avait véritablement une Europe qui se respecte, on ferait comme les États-Unis et on protégerait un minimum les frontières européennes de certaines importations qui sont des importations favorisées par le dumping mondial.
Mais enfin, où t'as vu une Europe qui se respecte? Depuis combien de temps elle existe? Tu vas faire ton plat en Belgique sur la frontière, tu peux même pas utiliser ta carte bancaire. Mais qu'est-ce que c'est que ce foutage de gueule? Non mais, je veux dire, les stations automatiques n'acceptent pas les cartes internationales visant, c'est absolument des cartes belges et pas autre chose, par exemple. Vous n'allez pas me raconter que l'Union Européenne, ça existe pour les consommateurs, c'est hallucinant.
C'est pour les consommateurs, c'est bien fait pour les entreprises, c'est pas fait pour nous.
Pour les banques,
Et pour les banques, encore mieux, parce que les banques, je te disais tout à l'heure, les banques, c'est aussi des grandes familles, c'est aussi des managers derrière aux ordres de ces grandes familles, etc., etc. sont aussi, on l'oublie. Il y a toujours un capitaliste derrière, un vrai capitaliste qui exploite du travail. Et bien évidemment, après, on met en avant certaines dérives comme Kerviel, etc., mais Kerviel, ce n'est qu'un épiphénomène par rapport à tout ce qui était fait.
Qui obéissait aux ordres,
en
tant que salarié.
On n'a jamais critiqué Kerviel quand il faisait gagner de l'argent à la Société Générale. On l'a critiqué après. Moi, je ne vais pas plaindre les traders. Je veux dire, ils sont dans le système. Ils ont totalement intégré les règles du système. C'est quand il y a un accident qu'après, ils se repentissent. Mais il vaut mieux qu'ils se repentissent plus tard que jamais. Mais c'est pas moi qui vais plaindre ces gens-là, quoi.
Il est moins 10 là-bas. Alors, une petite chanson de Frédéric Fromet, tu verras, elle est assez courte, tu devrais l'apprécier.
D'accord.
Qui va nous résumer notre. Pas sur la consommation, mais qui va nous résumer notre futur et après, on va pouvoir conclure.
Mes enfants, la retraite à 80 ans, ça c'est du progrès. 70 pigeons compteurs, vas-y papy, c'est toi le meilleur. Plus que 10 ans sur les chantiers. Comme tu sucres un peu les fraises, au marteau piqueur t'es balèze, c'est toi qui le fais trembler. Allez, allez, les vieux au boulot, fallait penser à mourir plus tôt. 75 ans comme un déclic, passionné de grande musique, tu es livreur de piano, même si tu ressembles à Petrucciani. 80 ans, ça se complique, la vie est dure comme un coup de trick, tu es aussi acteur porno. Allez, allez, les vieux au boulot, fallait penser à mourir plus tôt. T'affole pas ma petite mémé, ton beau voyage organisé, tu vas le faire encore bien. t'affole pas mon petit pépé. Toi qui espérais jardiner, on va t'aider à creuser ton trou au cimetière. Allez, allez, les vieux au boulot, on va vous faire mourir plus tôt.
Frédéric Fromet, les vieux au boulot.
Ouais, c'est ce qui s'appelle la polyvalence au travail.
Voilà, c'est ça. Si nos conditions de travail et nos salaires sont mis en cause, bah, ouais, c'est parce que nous avons abandonné le combat, et particulièrement les certains, enfin, pas mal de syndicalistes, surtout au plan national, qui préfèrent lors des salons, parce que je vous rappelle que la France n'a jamais été aussi riche, qui préfèrent lors des salons, les grands restaurants à Paris, et les grandes discussions avec certains politiques aimables.
En plus, ils croient, les syndicalistes en question, comme les gens du pouvoir, ils croient qu'ils ont le pouvoir.
Oui. Alors, oui, ils croient qu'ils ont le pouvoir. Alors, chose amusante, hein, attention, en Belgique, par exemple, là, la police s'est mise à faire une grève des amendes. Au Canada, c'est à peu près la même chose. Oui, parce qu'ils tapent aussi, enfin, je veux dire, on supprime des fonctionnaires, on détruit leurs conditions de travail, mais c'est valable aussi pour les militaires, les gendarmes et la police. Alors, mais ça risque de donner évidemment quelque chose d'amusant.
Oui, non, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train, en même temps, de scier la branche sur laquelle ils sont assis.
C'est exact.
Parce qu'une des fonctions du capitalisme, c'est aussi de se protéger contre les mécréants de salariés. Et on a toujours su que, bien entendu, et l'armée et la police étaient d'abord dirigées contre les salariés, voilà, non pas contre des extérieurs. Hein. Les grandes guerres ont servi uniquement à en faire entretuer des prolétaires entre eux. Hein. Ce n'était pas ceux qui étaient planqués par l'arrière. Donc on retrouve la même chose maintenant, d'ailleurs. Hein. Donc c'est toujours les gens qui sont riches, etc., qui vendent des armes, ainsi de suite, ben, qui en profitent un maximum. Hein. On le voit très très bien, on est en train de favoriser les ventes de rafales en ce moment.
Voilà. Puis regardons dans la presse, je veux dire, les titres, hein, on nous parle que de certains sujets. Bon, je ne sais pas si le fait qu'on commence à ouvrir des charniers en Ukraine fasse la une des journaux, non. On nous parle de l'Irak, des pays qu'il va falloir attaquer parce que, bah, je ne sais pas, certains en ont pris la décision.
pas nous toujours.
Bon. Ouais, pas nous, exactement.
Et donc on est dans un système où effectivement il nous amuse, mais c'est dramatique en fait.
Ah oui. Avec
toutes ces décisions qui prennent de tous les côtés et qui nous empêchent effectivement d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire de récupérer la répartition qui doit être la nôtre entre le capital et le travail, parce que la répartition entre capital et travail, elle se fait de plus en plus en faveur du capital, de moins en moins en faveur du travail. Et c'est ça qui a conduit au fait...
C'est la crise.
On a de moins en moins de gens qui ont du boulot, le chômage c'est quand même dramatique et que ça pèse sur toutes les formes de contestation sociale que l'on peut avoir. Donc ça, c'est le premier point. Donc il gagne sur ce point-là. Il gagne ensuite sur un deuxième point qui est les salariés ayant de moins en moins de revenus et de rémunérations sont obligés de se serrer de plus en plus la ceinture et de miser discount. Le mode de consommation, il nous est imposé également.
Bien sûr.
Le mode de consommation discount, il nous est imposé. On voit très très bien avec ce mécanisme dans les grandes surfaces, elles se sont toutes mises à faire du discount. Je disais tout à l'heure sur les bénéfices qui soi-disant diminuent en France, mais personne ne s'interroge jamais sur le calcul de la marge au départ, c'est-à-dire entre le prix de vente qui est pratiqué et le prix d'achat des biens. Or, le prix de vente, il est par définition lié à ces pratiques de discount. Tout le monde fait du discount, mais si personne ne faisait du discount, on serait exactement au même point. Donc c'est bien des choix des grandes entreprises qui se sont toutes mises à faire ça, notamment sous l'impulsion des Allemands avec Aldi, Lidl, etc. Voilà.
Mais attention, ils font du discount. Attends, c'est eux qui disent que c'est du discount.
Bien
un,
sûr.
C'est toi qui te payes le travail. Deux, tu ne maîtrises absolument pas ce que tu dois acheter. Alors effectivement, tu as un tarif réduit pour acheter 15 litres de lessive liquide, mais qu'est-ce que t'en fais, hein ? Il faut deux garages pour stocker les courses.
Oui, c'est
eux qui disent que c'est discount, parce que au niveau des prix, le grand classique, c'est la tête de gondole en promotion discount, qui est plus cher que le produit en fond de rayon. Moi, je dis ça, je dis rien. Donc attention, hein, c'est eux qui disent que c'est du discount. Hein, on fait de brillantes économies, on fait des économies intéressantes en maîtrisant ses achats et en achetant que ce qu'il faut et des bons produits. Enfin, moi, je dis ça, bon, c'est ce
non,
que
non,
je
non, mais on va l'illustrer tout de suite quand tu regardes un petit peu ce qui a été fait il y a maintenant 15 jours sur la fameuse tablette. on te dit, ou sur les nouveaux iPod, je sais plus quoi là, un truc à 800 €. Et tout le monde se précipite sur ce machin à 800 €, mais c'est du délire, quoi.
Oui, on est d'accord.
Alors qu'on en a déjà qui peuvent très bien fonctionner. Moi, j'ai un téléphone, je m'en sers pour téléphoner.
C'est la mode.
Je m'en sers pas pour filmer, ou je m'en sers pas pour faire des photos, je m'en sers pas pour faire, je sais pas moi, Internet ou des trucs comme ça. C'est complètement absurde. Maintenant, avec mon téléphone, je vais pouvoir faire quoi ? Ben, je vais pouvoir acheter à distance, payer à distance, etc., m'en servir comme moyen de paiement. Mais
m'en fous.
Ça devient du grand n'importe quoi. Bientôt, mon téléphone, il va me livrer chez moi ma bagnole, quoi. Je veux dire, bon, ça va être un peu difficile hein, pour faire entrer la bagnole dans le téléphone. Mais...
J'y pense.
Sauf que bon, sur ce mode de consommation-là, je disais, premier problème, t'as tout le haut, le prix qui est pratiqué, et t'as ensuite le prix d'achat qui est fait de ces produits-là. La différence, c'est la marge. Mais le prix que t'achètes aux agriculteurs, par exemple, c'est quoi ? C'est engendrer la misère dans les campagnes, c'est générer des problèmes de surproduction parce que les gens ne peuvent plus écouler leur fabrication au prix qui sont ceux-là, c'est mettre en concurrence les Espagnols, les Italiens avec les Français, c'est détruire des biens produits dans le domaine alimentaire. C'est la catastrophe complète.
C'est la catastrophe.
Moi, au début, quand je commençais les cours d'économie, je ne comprenais pas pourquoi on avait des crises de surproduction. Je comprenais pas, hein, j'étais jeune. Et je voyais pas pourquoi on gaspillait comme ça de la nourriture. Et ça a été, c'était le fait, hein, d'une façon très très importante, dans toutes les années 1800 et 1900, dans le monde. Je comprenais pas bien ça. Comment on pouvait arriver à de telles aberrations ? Ben, on le voit très bien actuellement. On est en train d'arriver à des choses comme ça, où on déverse des quantités d'alimentation partout, où on ne veut même pas les donner, où on refuse maintenant de subventionner des trucs comme les restos du cœur, etc., etc. Donc on est dans des systèmes où il y a un gaspillage énorme qui se fait, où on entretient la misère dans un certain nombre de professions, où on entretient la concurrence dans d'autres professions, etc., pour avoir des choses de moins en moins chères et de moins en moins de bonne qualité. Le problème de fond, il est là. Tu dis, il faut acheter, oui, mais il faut acheter de façon raisonnable et sur des modes de consommation qui sont des modes de consommation raisonnés. Donc, quand moi, j'ai pas besoin de quelque chose, je l'achète pas. Quand j'ai pas les moyens de l'acheter, je l'achète pas non plus. Donc, la question de fond, c'est bien, on est dans un système capitaliste qui, d'un côté, te prend sur l'organisation même, et d'autre côté, te prend sur le mode de consommation même. Le capitalisme, c'est quoi ? C'est l'exploitation du travail avec un mode de rémunération qui définit ton mode de répartition. Eh ben, t'es coincé des deux côtés. On t'a imposé un mode d'exploitation, donc des niveaux de rémunération, des niveaux de salaire, etc. Et d'autre côté, on t'a imposé un mode de consommation qui est de plus en plus restreint. Il faut pas s'étonner qu'on arrive dans des conditions pareilles à des crises et des crises périodiques. C'est ce qui se passait au 19e siècle, les années 1800 dont on parlait tout à l'heure. Voilà.
Voilà, des crises au 19e siècle, au 20e siècle aussi, les crises.
Eh bien, hein, entendu,
la crise de 29, on en entend parler.
Hein. On en entend parler et ça risque de se reproduire.
Vous écoutiez Radio Campus Lille, Benoît Boussemard et André au micro. À très bientôt. On vous laisse avec Trévidi, le blues du syndicat.
D'accord.
Je vais vous dire les gars ce qu'il faut faire pour faire augmenter vos salaires. D'abord parler avec les potes et faire une section syndicale. Tout solidaire, ce sera pas long pour faire la nique au patron. Moins d'heures de boulot, meilleures conditions de travail, les congés payés, les gosses au bord de la mer. Ça semble simple mais ça l'est pas, et je vais vous expliquer mieux que ça. Pourquoi faut rejoindre le syndicat? Car si vous croyez que le patron va de lui-même vous augmenter, vous serez là au jugement dernier. On sera tous morts et enterrés au paradis bien sûr, et Saint-Pierre sera un bon patron pardi. Vous savez bien que vous êtes exploité, mais le patron, il dit que non. Il force les cadences à t'en faire crever. Tu peux être viré, mais te laisse pas faire. Faut tous signer une pétition et organiser un meeting. Discutez, donnez votre avis, décidez, faites quelque chose. Le patron futé comme un bison trouvera toujours le compte service qu'il enverra dans votre meeting pour moucharder et provoquer. Faudra tout de suite dire au débile que le jaune lui va pas au teint. Arrête de faire la mouche, t'auras pas d'histoire et le mec aveugle retrouvera la vue. Maintenant votre section est créée, vous tenez votre première réunion. Choisissez bien quelques copains pour composer votre bureau. Le patron qui est sourd quand un seul jeune entend très bien le syndicat. Il est beau joueur, il est tout seul. Allez les gars, on va le trouver. Mettons que votre boulot soit l'enfer, avec un salaire de misère. Le patron se met à gueuler, fainéant, pas de rallonge, enfoiré. Mais regardant par la fenêtre, il voit des milliers de gars unis. Salaud, affameur, négrier, il bat sa femme, on peut le parier. Les gars, le plus dur, il reste à faire. Tout sera bon pour vous foutre en l'air. La police, la garde nationale, c'est un crime, une carte syndicale. Vos meetings seront perturbés. On matraquera tous ceux qui bougent. Sale bande de rouges, anti-américains, espions japonais, saboteurs de la défense nationale. Chez Ford, ce qu'ils ont compris, et chez Renault, ce qu'ils ont compris, et chez Lip, ce qu'ils ont compris, et chez Rodia, CETA aussi, aux joints français, ce qu'ils ont compris, un peu partout, ce qu'on a compris. Si on se laisse pas faire par les fachos, si on se laisse pas faire par les provocateurs, si on se laisse pas faire par les milices, si on se laisse pas faire par les jaunes, par les flics, par le gouvernement, si on se laisse pas baiser par les patrons, eh ben les gars, on gagnera. Enfin, ce que je vous en dis, prenez-le comme vous voulez, mais faites-le.
L'argent, ça fait pas le bonheur.
Enfin, ça aide, hein, quand même.
Parfois, ça aide.
C'est du pognon dont vous êtes malade.
Du pognon ?
Oui !
Le pognon, le pognon, le pognon,
le
pognon.
Mais le pognon, il faut le prendre là où il est, gros nigo. Il y en a partout, ça ruisselle dans les caniveaux. Fais comme moi, t'as qu'à te baisser.
Comprendre les mécanismes de l'argent, les rouages de cette crise financière pour nous, c'est faire les bons calculs économiques, les BCE en abrégé. C'est le premier mercredi de chaque mois, à midi, avec Benoît Boussemard et nos spécialistes sur Radio Campus Lille, 106,6 MHz ou sur le web www.campuslille.com. À bientôt!